Bonjour à tous et bienvenue au coin de la table.
La chronique qui démonte le jeu.
Qui démonte le jeu. Et donc, c'est encore une fois, c'est Pascal
Et
et
Aurélien,
Aurélien. Voilà.
voilà, pour le dernier épisode de notre chronique.
Un épisode sur le début.
Voilà, sur le début. Donc bien évidemment, hein, pour les auditeurs qui n'auraient rien suivi, la chronique qu'on a sortie vendredi n'était pas vraiment une vraie chronique, mais un petit teasing pour faire réagir nos chers auditeurs à cette fameuse ouverture taverne. Et donc on a eu une réponse de Nicolas. Nicolas qui s'est essayé à l'exercice de dire, bon bah voilà, effectivement, nous sommes sur une ouverture classique de jeu de rôle. Ce fameux vous êtes dans une taverne qui a quelque chose de presque de très stéréotypé où on se dit bon bah voilà c'est peut-être un prétexte pour les maîtres du jeu qui manquent d'imagination qui se disent bon bah on va rester sur quelque chose de très classique et s'est emparé de la chose pour proposer deux ouvertures différentes. Alors on peut peut-être citer le début de la première ouverture.
Ouais. Alors du coup, la première ouverture que Nicole nous propose, c'est vous êtes une bande d'aventuriers, vous êtes dans une taverne normale, quand soudain l'intégralité de la taverne se met à vibrer, puis à trembler, puis se secouer, t'es un énorme tremblement de terre. Vous avez beaucoup de mal à tenir debout alors que tout vole autour de vous, et d'un seul coup tout s'arrête. Alors que vous vous relevez parmi les objets renversés et autres bières répandues sur le sol, tout semble être redevenu normal hormis le désordre aux alentours. Sauf que le paysage au travers des carreaux sales de la fenêtre a changé.
Tintintintin.
Voilà. Donc on a discuté un petit peu de ça. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est ce qu'on appelle un choc de lecture. C'est ça que tu avais trouvé comme terme?
On a cherché effectivement un choc de lecture, ouais.
Ok. Du coup, Nicolas nous propose en fait de renverser dès le début de la partie tous les, entre guillemets, les paradigmes, certainement, de ce qu'il propose comme truc.
Ouais, parce qu'on a peut-être une notion de on est dans une taverne, donc c'est un endroit qui est sécurisant, qui est censé être safe.
Familial,
Familial.
familial.
Oui, tu vas avec ton gamin de 8 ans, tu bois une petite bière avec lui.
Non, je voulais dire familier, pardon.
Familier, ouais, familier, effectivement. Donc oui, il y a un renversement parce qu'on sort complètement de ce contexte et on va quelque part prendre les joueurs et les joueuses par surprise d'une manière tout à fait inattendue. Donc ça, c'est un type d'ouverture, le choc de lecture qui a un vrai intérêt pour aller mettre les joueurs dans l'ambiance directement, quelque part.
D'ailleurs, sa deuxième ouverture est un peu basée sur le même principe,
Ouais.
puisque c'est un scénario d'apocalypse où vous êtes ici et maintenant là, assis tranquillement autour de cette table à pratiquer un jeu de rôle. Donc, petite mise en abîme. Quand soudain toutes les lumières s'éteignent et vous vous retrouvez dans le noir et dans le silence, d'un seul coup toutes les sirènes de la ville se mettent à sonner et au loin vous percevez d'énormes détonations du style explosion. Dans la rue, des cris d'effroi se font entendre, que faites-vous?
Donc oui, là il y a un combiné de deux choses. On a toujours ce côté mise plongée un petit peu dans l'action directement. Donc l'avantage c'est que ça permet d'engager directement les joueurs et de mettre une adrénaline, de mettre un suspense. Et avec un petit bonus effectivement qui est la mise en abîme, qui est un procédé qui permet de aussi s'identifier plus facilement parce qu'on se dit bon bah, on est des joueurs de jeux de rôle, voilà, on est nous-mêmes quelque part et qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ça finalement utilise une notion qui est la notion de qui sont les personnages et qui sont les joueurs. Ce qui est assez intéressant parce que l'ouverture a plusieurs objectifs et un des objectifs, c'est finalement de faire en sorte que les joueurs puissent rentrer dans le jeu. Et donc pour ça, il faut qu'ils comprennent qui sont les personnages et qu'ils comprennent leur environnement. C'est les deux éléments principaux.
Tout à fait. Et du coup, en général, il y a un peu deux méthodes justement pour faire ça. T'as la méthode d'exposition, où on est, bah, en général, on commence au calme, on présente les personnages, on présente leur vie quotidienne, que ce soit, voilà, donc l'exposition, c'est un terme qui est valable pour le jeu, le cinéma, la littérature, qui a tendance à se perdre un petit peu dans le cinéma moderne, au profit de ce qu'on appelle les débuts in medias res, où tu commences directement dans l'action, qui a été un peu initié par James Bond, par exemple au cinéma. Où dès que est vachement utilisé dans les films Marvel par exemple, où dès que les logos des différentes boîtes de production ont fini de défiler, d'un coup tu as une explosion, tu as des gens qui se tapent dessus, etc. Les deux en fait peuvent servir à la même chose, c'est-à-dire que d'établir les personnages, les deux dynamiques. Ce qui est intéressant par exemple au niveau du jeu de rôle, c'est que l'exposition permet souvent justement de mettre en place un univers familier avant de casser quelque chose dans cet univers pour créer de la. Bon, bah voilà, de. Comment on appelle ça déjà dans la littérature? T'as la situation initiale,
Ah, l'élément
l'élément
perturbateur.
perturbateur,
Ah,
voilà.
nos cours de sixième.
Exactement. Donc ta situation initiale, tu l'as fait pendant l'exposition, et d'un coup,
Ouais.
paf, t'as ton élément perturbateur. Le in medias res, t'as souvent soit une situation qui est déjà en crise et qui est en train de se régler et qui va être réglée dans cette introduction pour ensuite donner le nouvel élément perturbateur. Et en fait, dans le jeu, commencer in medias res, ça permet aussi de zapper toutes les questions du genre comment vous vous connaissez, machin, ça, c'est des trucs que tu peux voir plus tard. Là, on commence dans un jeu de rôle, vous êtes déjà une équipe, vous êtes déjà, entre guillemets, expérimenté. Ça esquive un peu toutes ces questions du coup de la taverne, en fait, justement. Le coup de la taverne, vous êtes dans une taverne, il y a un vieux chelou qui est assis dans un coin. Voilà, il vous dit, allez, pour des pièces d'or, tu me fais ça. Tu vas me chercher 10 poulets, et puis voilà.
Ouais, c'est un truc que j'ai vécu dans une campagne de jeu de rôle sur l'univers mage, donc de Monde des Ténèbres. Où justement la campagne a commencé avec on était trois personnages et les trois personnages ne se connaissaient pas particulièrement en amont, mais au lieu justement d'opter pour la stratégie de la taverne ou autre équivalent, le maître du jeu nous a poussé dans une situation où par globalement nos motivations personnelles, on se retrouvait tous les trois à finalement se mesurer à l'antagoniste principal dès le début. Donc on avait une situation de combat et d'affrontement tout de suite. Donc c'était très intéressant parce que mon personnage a failli mourir lors de la première heure du jeu de rôle. Donc c'était assez engageant et on a réussi à faire détaler l'antagoniste. Mais c'est à ce moment-là que le reste du jeu s'est mis en place et que plein de choses se sont passées. Donc ça permet que nos personnages finalement, sans se connaître, se sont rencontrés autour de cette situation de crise et la relation interpersonnelle de nos personnages s'est construite autour de cette situation, quelque part. Donc c'est intéressant.
C'est l'expérience de jeu qui fait que. T'as un petit peu aussi des fois ce côté de vous êtes tous dans le même bateau. Ça rapproche un peu plus de ce qu'on appelle le railroading, c'est-à-dire le côté du genre où bah, vous suivez ce chemin, vous n'avez pas trop le choix, mais en faisant un début habile. Alors là, pas d'exemple très habile sous la main, mais globalement, un groupe de survivants enfermés dans un quelconque véhicule avec une situation de crise. En général, c'est la force des choses qui fait que le groupe va se souder. Tout le monde est dans le même bateau et la coopération est obligatoire. Quand tu commences le jeu de rôle, alors je sais pas si ça arrive encore à certains, mais tu as souvent ce cas où quand tu fais le coup de la taverne, et ben il y a toujours un mec qui dit de toute façon moi je m'en fous, je me barre, je vais élever des chairs. Et là tu fais mais
Mais
putain.
enfin! Bah alors, c'est intéressant parce que pour revenir sur ce que tu disais, quand tu parlais de l'exposition et d'une media res, moi je pensais aux séries. Alors, n'étant pas, je dois le dire, un grand amateur de séries en général, j'ai quand même une série en tête, deux plus exactement, qui sont Sense8 et Sliders. Alors, on parle de deux époques très différentes, mais Sense8, justement, je me rappelle d'un début qui est très basé sur l'exposition, qui finalement, alors, oui et non, parce qu'on a quand même une ouverture vraiment à tout début de la série, qui est une media res, puisque il y a les personnages qui sont derrière hein, la notion de Sense8, qui se retrouvent dans une situation de conflit tout de suite et qu'on comprend pas trop, et ensuite on voit les différents personnages
Il y a quand même une
exposés.
forte exposition. Enfin, il me semble que ça met quand même 2-3 épisodes avant de bien se mettre en place. Ils
Oui.
ont le même pouvoir en même temps, entre
Oui, c'est
guillemets.
ça. En fait, les 5 premières minutes sont in medias res, et ensuite on a un temps très long justement de découverte des 8 personnages. En même temps, vu la structure narrative de la série, c'est presque évident quelque part de se dire bah, toute la série est finalement une gigantesque exposition et une découverte de ce pouvoir et de cette connexion interpersonnelle. Et donc, effectivement, on est sur quelque chose de très graduel, mais on va apprendre à connaître les personnages petit à petit, leur spécificité et le pouvoir et l'intrigue. Et au contraire, bah, Sliders, alors je vous avouerai que j'ai pas les 10 premières minutes de Sliders en tête, mais très rapidement. Donc Sliders, hein, qui est une série des années 80, qui parle du monde parallèle, hein, il y a un
Ah, c'est
physicien.
90 plutôt.
90? D'accord,
Début
bon, voilà.
90 sûrement, mais.
Ok, Aurélien, maître de la préparation de podcast. Et donc effectivement, un physicien hein, enfin, utilise une télécommande pour passer entre des mondes parallèles.
Si je me souviens bien, c'est même. En fait, c'est un gamin, entre guillemets, un étudiant qui crée ça dans son garage,
Ouais,
dans
c'est
sa
ça.
cave. Et à son, il veut montrer à son prof,
Oui.
qui est joué par Jonathan Rhys-Meyers, et ça foire évidemment. Et voilà. Et là, typiquement, ouais, ce qu'on disait, on est vraiment dans le côté tout le monde dans le même bateau, puisqu'il y
Voilà.
a ce groupe hétéroclite Ouais, genre un chanteur de blues raté.
Oui, alors oui, c'est ça. Et lui, c'est très intéressant. Alors bon, là, vu que je n'avais pas forcément pensé à parler de Sliders, j'ai plus les noms des personnages en tête, à part Queen Mallory, qui est donc le protagoniste. Mais effectivement, il y a ce chanteur de ce chanteur qui n'a rien à voir dans l'histoire et qui est juste passé en voiture au moment où le portail s'est ouvert et qui s'est retrouvé embrigadé dans cette troupe entre, voilà, un étudiant, son professeur,
Et la petite
là.
copine.
Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est
Ouais.
la petite copine ou juste une amie ou bon,
Bref.
voilà, le stéréotype du personnage féminin des années 90, on va dire, pour le meilleur et pour le pire, surtout le pire, et qui se retrouve avec ce chanteur de blues à côté. Et ouais, ils sont dans le même bateau et ils se disent, bon, bah, on a une situation de crise un peu avérée, les gars, c'est qu'on est dans un monde parallèle et il se passe des choses généralement un peu pas très faciles à gérer dans ces mondes parallèles.
Donc ouais, c'est un peu un type. Ouais, c'est un truc que tu peux vachement utiliser dans le jeu de rôle. Le type, ouais, vous êtes embarqué. Le fameux, vous faites Shanghai.
Shanghai.
Ouais, c'est une. Parce qu'en fait, à une époque, t'avais des gens qui se faisaient enlever
Ouais.
et expédier à Shanghai pour travailler comme esclaves, en fait.
Ah,
Et
d'accord.
du coup, t'as l'expression en anglais to be Shanghai, où en fait, tu te fais kidnapper pour être forcé de travailler.
D'accord.
À moindre coût sur des bateaux ou des trucs comme ça.
D'accord.
T'as ce côté-là. Oui, et du coup, il y a certains jeux qui prennent un petit peu ça en compte.
Ouais.
Et notamment, je pense à certains rétroclones de donjons et aussi un jeu plus récent, Shadow of the Demon Lord, qui propose de faire une première partie, un scénario au niveau zéro. C'est du type donjon, hein. Tu choisis une race, en fait, et au début, t'es humain niveau zéro. Ou t'es orc niveau 0 ou elfe niveau 0 et tu fais en fait tu fais un scénario, t'as un scénario qui est là qui est prévu justement spécialement pour mettre en place la cohésion de groupe, puisqu'en fait ce qu'ils te disent c'est ne choisissez pas de classe, n'essayez pas de faire un personnage etc avant là, cette première partie, choisissez juste une race, un background, genre un passé. Plus le Shadow of the Demon Lord est plutôt sympa parce qu'il propose tout ça sous forme de table aléatoire, donc tu peux soit les lire et choisir un truc, soit jeter un dé pour dire tiens je vais faire un personnage complètement aléatoire, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ce qu'ils te disent, c'est choisissez une classe, donc un métier, une profession, des compétences, à l'issue de cette première
En
partie,
fonction de ce qui s'est
en
passé.
fonction de ce qui s'est
Ah, c'est
passé.
intéressant ça.
Ouais.
Ben alors c'est marrant, on retrouve un petit peu ce côté. Moi ça me fait penser à une notion presque tutoriale,
Ouais.
où c'est une notion qu'on va beaucoup retrouver dans les jeux vidéo, parfois dans les jeux de société. Donc les jeux de société qui proposent des parties d'ouverture. Alors je pense à des jeux comme Andor justement qui ont ce côté scénario tutoriel ou même Zombicide avec des scénarios croissants. Donc les tutoriels hein, qui sont un levier énorme de l'ouverture puisque ça permet de pouvoir rentrer dans le jeu de manière simplifiée. Donc, petit aparté là-dessus, il y a très longtemps, justement, on avait discuté avec Antoine Boza de comment est-ce qu'il présentait Seven Wonders. Et justement, lui choisit, lors des premières parties, de ne pas présenter tous les mécanismes du jeu et de les faire découvrir d'époque en époque, pour déjà comprendre les tenants, les aboutissants du jeu, donc les grandes mécaniques de draft, de pause, qui sont déjà pas forcément évidents pour des joueurs qui sont non initiés. Et justement, tout ce qui est mécanique de chaînage entre les deux aires, etc., c'est quelque chose qui va expliquer au fur et à mesure. Donc le tutoriel, c'est l'explication croissante, finalement, de difficultés croissantes des différents éléments de jeu, pour pas balancer des mécaniques de jeu pendant 1 heure et on a
Ouais.
retenu que 50%, voire 5%. Et ça se passe pas très bien.
Le tutoriel, c'est un truc qui était très critiqué dans les jeux vidéo du genre au tournant Xbox 360, PS3, parce que c'est quelque chose qui a pullulé à ce niveau-là, à cette époque-là. Et les gens disaient, ouais, mais enfin, moi je me rappelle, soit tu avais un niveau d'entraînement qui était à part, pense à Tenchu par exemple, soit tout était expliqué dans le manuel et de là, c'est démerde-toi. Et
Oui.
je pense que beaucoup de joueurs de jeux vidéo, enfin moi en tout cas, ont ce souvenir de tu vas acheter ton jeu vidéo au Score Games ou au Micromania à l'époque où c'était encore.
Fréquent d'acheter des jeux
Voilà,
physiques avec des
c'est
gros
ça.
manuels, justement.
Et tu passais le trajet dans la voiture à lire ton manuel parce que de toute
Et
façon t'as
oui.
rien d'autre à faire, t'as envie de jouer et puis merde, putain, ah il y a cette arme, ah c'est trop cool, on peut
Et oui.
faire ça, waouh, j'ai même pas vu, tu vois.
Ah mais t'as raison clairement et c'est vrai que ça on a complètement changé de paradigme sur l'ouverture d'appréhension d'un jeu et moi j'ai souvenir aussi d'un jeu alors j'invite mes auditeurs à aller se renseigner sur ce jeu, ça s'appelle Megalomania, donc ça s'appelait Tyrants Travel Through Time, qui était un jeu sorti sur Amiga dans les années il y a longtemps et qui est ressorti ensuite sur Mega Drive et sur Super Nintendo début des années 90. auquel j'ai eu la chance de jouer quand j'étais jeune, et ça reste un de mes jeux préférés malgré ses défauts assez flagrants. Et ce jeu, effectivement, à l'heure actuelle, est complètement incompréhensible. Il est injouable sans le manuel parce qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire, quels sont les tenants, les aboutissants. Moi, quand j'étais gamin, j'avais passé voilà, longtemps à lire le manuel pour comprendre comment marchait le jeu. Et effectivement, là-dessus, tout a changé puisque l'époque est beaucoup plus à l'accessibilité, au jeu découvert avec un tutoriel qui est immersif et qui va engager le joueur. Et ça a beaucoup changé.
Ouais, c'est pas forcément mal en soi, hein, de ce que je disais, le
Oui.
fait de la pu le fait des tutoriels, c'est que je pense qu'il y a 10 ans justement, ça se découvrait en soi
Ouais.
le fait d'en appliquer partout, et c'était pas toujours très habile. Après, il y avait des trucs assez marrants, je me rappelle dans Shadow of Mordor, dans le tutoriel pour faire les, t'as un tutoriel pour la furtivité et poignarder quelqu'un dans le dos. En fait, c'est tu t'approches furtivement de ta femme et tu lui offres un bouquet de fleurs furtivement. Du coup, c'est mignon, mais ça t'apprend la mécanique, mais sans te faire le truc de machin, etc. Et aussi, c'est ce pour jeu qu'on fait, Far Cry Blood Dragon. Le
Ah, Blood Dragon.
tutoriel est fantastique.
Oui, il se moque des tutoriels, non?
Ouais,
C'est un
c'est ça.
tutoriel,
C'est
ouais.
tu vois un cyborg, en fait, au moment où tu sautes de l'hélicoptère de façon très manly années 80.
Ouais.
T'as ton partenaire qui fait hey, activez le tutoriel X23 et tout, et t'as le mec qui fait oh putain, enfoiré! Et là, t'as le tutoriel du genre appuyez sur W pour avancer, appuyez sur S pour reculer, appuyez sur espace pour effectuer une translation verticale. Enfin, des trucs complètement débiles et complètement assumés. Et du coup, enfin, ça passait complètement.
Mais ça, c'est très drôle parce que justement, comme d'autres ouvertures d'ailleurs, c'est utiliser le méta, quelque part, utiliser la base culturelle et la connaissance culturelle. Alors, on vous renvoie sur le podcast, le jeu est-il un objet culturel? Utiliser la base culturelle pour justement engendrer un référentiel commun et se moquer de ça. Et effectivement, Blood Dragon, je pense, avait comme cible prioritaire des gens qui avaient une nostalgie ou des années 80 ou adoptaient le délire et étaient très peu ciblés
C'était le
pour les
début du
néo.
revival des années 80
Ouais.
avec Hotline Miami et
Ouais.
toute cette culture néon que
Oui,
tu
c'est
retrouves
ça.
pas tellement dans les films de l'époque en plus.
Non, c'est ça. C'est effectivement juste un fantasme qu'on a, un peu le fantasme du jeu à la Tron au final, mais c'est pas tant. Et donc, ce côté, assumer la base culturelle pour pouvoir fournir une ouverture qui soit parlante, bah justement, d'où l'idée de la taverne, où on sait tous ce que ça signifie de dire vous êtes dans une taverne et comment faire pour être créatif et retourner le sujet de manière assumée et déconnante et intéressante.
D'ailleurs, c'est un bon truc, ça, d'où ça vient cette idée de la taverne comme lieu de départ d'aventure?
Ah, ça, c'est oui, c'est une bonne question.
Est-ce
C'est
que
vrai
c'est
qu'on
une
a.
question qu'il aurait fallu poser à Gary Gygax ou
Oui, je
Gygax
pense. Hein.
ou est-ce que c'est un truc qu'il a jamais fait mais qui a été quand même repris derrière?
Bon, moi, ça me paraît assez naturel. C'est vrai que ça peut être intéressant de se poser la question, mais comme tu disais, un événement, c'est un endroit qui est familier, qui est safe, dans lequel les aventuriers se retrouvent avec toute cette iconographie de se dire bon, bah voilà, médiéval fantastique, aventurier, taverne, quête, gloire, hein. Tous les mots-clés sont réunis pour que ça puisse être classique.
T'as même dans la science-fiction, le bar, notamment
Ouais.
dans le genre cyberpunk, le bar c'est souvent un synonyme de QG,
Oui.
de l'endroit où le groupe se retrouve, et que ce soit. Et je parle pas que dans le jeu, quoi, dans d'autres trucs. Enfin, je pense par exemple à la BD Gunm, où t'as le fameux bar qui se fait détruire, construire 3 fois de suite.
Oui, c'est vrai.
Et qui est le lieu où tous les chasseurs de primes se retrouvent, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Même dans des œuvres beaucoup plus récentes, hein, comme bon, allez, on va prendre le manga Fairy Tail en idée. C'est vrai que même au sein de la guilde de Fairy Tail, il y a cet espace commun bar avec le côté chasseur de primes et les affiches qui sont bah, affichées des contrats à recueillir. Avec l'iconographie, ben finalement, ouais, c'est ça, c'est l'endroit un peu safe duquel on va pouvoir refaire le monde, on va pouvoir créer des aventures, se créer des histoires, et parfois plus littéralement que d'autres, peut-être. C'est peut-être un peu ça.
Et du coup, c'est pour ça, c'est peut-être aussi souvent pour ça que le dit bar, la dite taverne se retrouve régulièrement à se faire détruire. Mais ça, c'est une
Ouais,
autre histoire.
c'est une autre histoire. Et donc,
Ouais.
vas-y.
Moi, il y a un truc que je pensais, justement, quand on parlait de tutoriel, que ce soit pour les jeux de plateau ou les trucs, j'ai entendu pas mal de gens se plaindre récemment que. Enfin, pas mal de gens. Je fais un peu mon Marseillais, même si je n'ai pas de famille à Marseille. Mais j'ai entendu des gens, une ou deux personnes, au minimum, se plaindre de la mise en place des jeux, la
Oui.
préparation des jeux de plateau. Le problème, c'est qu'on atteint une époque où enfin le problème, avec des gros guillemets, hein. On est à une époque où les jeux deviennent de plus en plus sophistiqués, et maintenant, si quand t'achètes un jeu, t'es limite obligé de fabriquer ou d'acheter un truc en plus pour pouvoir ranger ton jeu, parce qu'il y a 18 pions différents, 4 paquets de cartes d'un format, 6 paquets de cartes d'un autre format.
Bah alors ça dépend des tendances de jeu, parce que là tu parles plutôt des jeux plutôt typés core gamer, familial plus,
Ouais,
expert,
familial
etc.
plus
Mais
plus
ouais.
plus. Moi, je pense Sight, ça va encore, mais t'as des jeux comme le Doom ou les Battlestar Galactica, où au bout d'un moment, avec
Ouais.
toutes les extensions et tout, tu fais bon.
Ouais,
Ouais, je.
quand on est dans ce qu'on appelle la mairie trash, quoi, avec la
Ouais.
profusion de matériel. Ouais.
Ouais, complètement. Et du coup, t'as ce côté où t'es presque obligé, quand tu dis. T'es presque maintenant. Ça devient plus compliqué de dire bon, les potes, venez chez moi. On verra bien à ce qu'on joue. Il y a plus maintenant, c'est plus limite. Bon, alors tel jour, telle heure, vous venez, on joue à tel jeu.
Ouais.
Et en fait, une demi-heure avant que les gens arrivent, t'es déjà en train de trier tes cartes
Ouais.
et de faire les trucs.
Bah alors je sais pas à quel point c'est nouveau ou pas, j'ai l'impression qu'en fait on a deux catégories parce qu'au contraire on a beaucoup de jeux de société qui s'ouvrent très bien, où
Ouais.
on a notamment tout ce qui est Unlock, où finalement Unlock c'est dur de faire plus élégant qu'un paquet de cartes et un smartphone, King Domino aussi qui a eu un grand succès, où finalement bah t'as, voilà, bon il faut faire les châteaux au début, ça prend oh là, au moins 3 secondes, puis après t'as juste un tas de dominos. Mais effectivement quand tu parles de ça, moi je pense à Dune, le jeu de plateau qui est sorti dans les années 90, qui était L'As d'Or 95 me semble-t-il, qui est édité par Descartes et qui est un jeu qui aura donné en termes de mécanique notamment Twilight Imperium et qui a cette logique de très 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 gros jeu à installation qui prend vraiment longtemps etc. Et j'ai l'impression que c'est plutôt une histoire de pratique et à quoi est-ce qu'on est prêt à jouer. Mais par contre, ce qui est très vrai, c'est qu'en fonction du temps aussi de mise en place et de préparation, tu as ce côté où il y a peut-être une sacralisation d'ouverture du jeu qui va être plus ou moins grande en fonction des joueurs et l'expérience voulue, quoi.
Et ce qui est, alors le seul côté que je trouve regrettable à ça, c'est que souvent, des fois, tu sors un jeu, tu te dis, vous allez voir, ce jeu, il est vachement bien. Tu sors le jeu, tu sors 4 paquets de pions, 2 paquets de machin, et là, les gens commencent à faire des yeux, ils disent, je suis pas sûr d'avoir envie de jouer à ça, en fait. Ils commencent à flipper un petit peu.
Je suis pas prêt.
J'ai besoin de faire une thérapie avant. Notion de préparation, de profusion de matériel, ça, c'est pas forcément synonyme, en plus de j'ai pas envie de dire de. C'est pas synonyme d'être compliqué. C'est
Oui,
mettre un jeu complexe, mais ce qui est simple, accessible, qui est vachement accessible. En général, à chaque fois que tu sors Battlestar Galactica, tout le monde flippe, et puis.
ouais.
Enfin, les gens qui connaissent pas, puis une fois que c'est lancé,
En
quoi.
fait, ça va. Oui, clairement, il y a cette notion de profusion de matériel, mais qui en fait. Bah, après, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, un jeu comme le Monopoly sortait à l'heure actuelle? Parce que mine de rien, dans le Monopoly, il y a quand même pas mal de matos. On a des maisons, des hôtels, des cartes communautés, des cartes chance, des cartes de propriété, des pions, des. Enfin bon, je commence à avoir fait des billets. Ok, en fait, le Monopoly, c'est pas un jeu qui est.
Qui va s'y mettre en place que ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, à
Surtout
mettre en place, ça
que
va, mais c'est vrai qu'il y a quand même une profusion de matériel, quoi,
bah
qui peut faire peur. Quand tu distribues les billets en faisant la monnaie au début, enfin,
ouais.
voilà, et c'est malgré tout, sortir le Monopoly, ça, c'est quelque chose, alors, bon, qui peut être tout à fait acceptable et bien pris pour les gens qui aiment le Monopoly. Voilà, s'il y a des auditeurs parmi qui aiment le Monopoly, n'hésitez pas à vous dénoncer, mais en tout cas, voilà, ça, dans ces conditions, c'est
Présentez-vous au
possible.
commissariat le plus proche.
Voilà, c'est ça. Et justement, cette notion, bah, ça me fait rebondir, la notion de mise en place, de préparation, d'ouverture du jeu, vraiment, on se lance dans la partie. Moi, ça me fait penser, puisque bon, quand même, j'allais pas passer un podcast où vous en parler, au jeu Legacy, Pandémie Legacy. Donc voilà, là, on est en train de jouer à la saison 2 en ce moment. Et typiquement, c'est assez. Il y a un truc. Enfin, nous, c'est vrai que les Pandémies Legacy, comme on les connaît, comme on a un groupe de joueurs qui est fixe, ben, c'est vrai que le côté préparer le jeu, c'est devenu quelque part un peu notre rituel pour se mettre en jambe. Tu vas mettre le paquet de cartes à tel endroit, tu vas prendre tel perso, machin, etc. Il y a forcément une ou deux règles dont on ne se rappelle plus, donc on va aller revoir dans le livret des règles à ce moment-là. Et ça me fait rebondir aussi sur un autre sujet qui sont les débuts de suite. Donc là, c'est un sujet sur lequel on s'est un peu questionné. Comment est-ce qu'on fait pour bien ouvrir une suite d'un jeu. Et c'est pas forcément trivial parce que si on prend l'exemple de Pandémie Legacy saison 2 par exemple, on se retrouve quand même dans un jeu qui, d'un point de vue du paradigme exposé à l'arrière de la boîte et dans le livret des règles, est un jeu qui se passe quelques dizaines d'années après Pandémie Legacy saison 1 et dans laquelle l'humanité a presque été anéantie. Donc forcément, au début, on se questionne, on se dit, bon bah imaginons, on a joué à Pandémie Legacy saison 1 et ça s'est plutôt bien passé, sans spoiler. On est quelque part presque un peu déçu que ça se passe comme ça. Mais malgré tout, ça permet de poser un contexte de base qui permet de faire un reset, une remise à zéro, ce qui permet aussi à des nouveaux joueurs de rentrer, c'est-à-dire que des joueurs qui n'ont pas joué à la saison 1 peuvent jouer à la saison 2. Et d'autre part, il, entre guillemets, suffit d'avoir un contexte narratif qui explique pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Il y a le jeu vidéo Chrono Cross aussi, qui est la suite de Chrono Trigger, qui s'empare de cette logique de dire comment est-ce qu'on fait une suite de manière intelligente, mais qui soit inclusive pour les gens qui n'ont pas participé au précédent, et c'est pas toujours facile. CF, les films Marvel.
Et t'as aussi ce côté-là les deux nouveaux jeux XCOM, XCOM 1 et XCOM 2, qui est vachement bien, où bah, dans XCOM 1, les extraterrestres débarquent en mode violent, hein, ils exterminent des villes, tout ça, et du coup, on joue. XCOM, c'est une organisation en marge des pays, mais qui est financée entre guillemets par l'ONU. Qui repousse du coup qui organise des groupes armés pour repousser l'invasion alien. Et du coup bah à la fin de XCOM ah, t'arrives à repousser le truc, tout le monde est content, on se fait tous une grande tape dans le dos et voilà. T'as une je sais plus, il y a peut-être un léger cliffhanger en mode on va revenir etc, mais ça s'arrête là. Et en fait quand XCOM 2 commence, un gros twist entre guillemets, les aliens sont là, ils sont intégrés à la société. Il y a vaguement une espèce de. L'iconographie du jeu est vachement bien, t'as un côté totalitaire mis en place. Et en gros, les aliens, en fait, après avoir échoué, avoir utilisé la méthode violente, se sont juste infiltrés sournoisement et ont utilisé entre guillemets, j'ai envie de dire, le capitalisme pour.
Allez, allez
Voilà.
malin, allez
Allez,
malin.
voilà. Pour s'intégrer dans la société et on se retrouve en fait à jouer la résistance. Il y a aussi ce côté une inversion de la progression de la situation. Dans XCOM 1, tu joues entre guillemets l'ordre établi et dans le 2, tu t'es en marge de la société, tu es une résistance, tu dois te cacher. Et du coup, ça marche vachement bien parce que toutes les mécaniques du jeu ont été tournées autour dessus. Au lieu d'avoir une base fixe et de construire des trucs, etc. T'as une base mobile et en fait tu organises des réseaux de résistance. Et avec ta base mobile, en fait, des fois tu dois fuir des UFO qui te cherchent. Alors que dans le premier, c'est toi qui
Qui
installes des
traque les
radars
UFO.
pour savoir où sont les UFO et leur courir après.
Oui, c'est intéressant. Ça donne finalement un nouvel angle au jeu et ça donne une nouvelle narration. On se dit, bah finalement, qu'est-ce qui se serait passé si? Et bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Et justement, on a ce côté-là. Alors, il y a un jeu dont on voulait beaucoup parler, c'est la série de jeux vidéo Zelda. Qui a ce côté un peu dans le dernier épisode, donc Breath of the Wild, on est dans ce côté quelque part un peu de notion de la résistance, puisque on est un peu le dernier espoir dans suite à une lutte qui a déjà été perdue quelque part, puisque Ganon a contré toutes les défenses qui étaient mises en place et les a retournées contre nous, et donc toutes les armes qu'on avait mises en place contre lui se sont retournées contre les humains. La plupart des gens ont été exterminés, c'est très compliqué. Et il n'y a plus que la sympathique princesse Zelda qui lutte en loose dé pour l'empêcher de sortir du château. Et là où finalement les autres Zelda, qui finalement c'est très intéressant, Zelda, c'est un jeu qui va raconter à peu près tout le temps la même histoire, mais avec des variations. C'est, on dirait, un exercice de style finalement. Puisqu'on se retrouve dans la plupart des jeux Zelda avec un personnage qui est le personnage de Link à se battre contre l'antagoniste qui est le personnage de Ganon. Alors des fois, il apparaît plus ou moins tard, mais quand même, ça reste toujours un peu lui, plus ou moins. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais voilà, il y a ce parti pris de, à chaque ouverture, on sait qu'on est dans quelque chose qui est connu, mais en même temps, on va réinventer l'existant. On va réinventer l'existant et on va dire, bah voilà, nouvel angle de vue. Bah, cette fois, on est dans les cieux. Cette fois, on est dans la mer parce que tout s'est fait engloutir. Cette fois, on est le dernier pilier d'une résistance, etc.
Il y a un peu cette notion aussi de la résistance et trucs dans Ocarina of Time, en version un peu plus déprimante en fait quand tu réfléchis encore plus, parce que tu as ce côté où quand tu commences le début, tu es enfant et tu as ce côté de. tu peux pas, tu, on sait qu'on va pas gagner, on sait qu'on va perdre. Donc en fait, on met le héros en sommeil pendant 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Et 7 ans plus tard, alors que c'est la merde, hein, le village il est détruit, il y a plus que des morts vivants d'ailleurs dedans, dans le genre truc glauque.
Ouais, c'est voilà. Super drôle.
Le monde est dominé par Ganondorf et c'est seulement à ce moment-là où tu peux faire quelque chose.
Ouais.
Mais en fait, c'est déjà trop tard.
Ouais, c'est ça, c'est déjà trop tard. C'est très intéressant comme parti pris. Voilà, sur les derniers petits exemples là-dessus, on avait ce côté, on avait aussi pensé à Torchlight. Donc Torchlight est un jeu vidéo dans lequel justement, dans le 1, on va jouer trois aventuriers qui vont aller lutter contre le mal. Hein, voilà. Et dans Torchlight 2, c'est un des héros qui s'est fait corrompre et qui devient l'antagoniste principal.
Ouais.
Donc c'est tout bête, hein, mais ça permet d'avoir ce côté, bah, on sait ce qui s'est passé, il y a une explication et pas un truc qui est parachuté en mode, bon bah c'est comme ça, et puis tout ce que vous avez fait ne compte pas. C'est-à-dire que dans la suite, ce qui est important, c'est que le précédent compte. Alors, avec un parti pris quelconque, hein, on va pas parler de Star Wars épisode 7, non, non, non. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a ce côté, voilà, il y a une explication, il y a une nouvelle narration, il y a une nouvelle ère qui commence, quoi, une nouvelle génération.
Ouais. C'est toujours vachement intéressant, je trouve, ces espèces de suites qui font un début, qui te disent, ben en fait... tout n'est pas tout rose.
Ouais.
Il n'y a pas les petits lapins qui courent partout, comme on le pensait. Je pense que l'une des séries les plus fortes à ce niveau-là, alors les gens pensent qu'ils disent, enfin voilà, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'avis divergents sur les suites des bouquins, mais Dune.
Ah bah j'allais y venir, j'allais le citer.
Voilà,
ah là là.
c'est typique le moment où Paul Atreides, oh là là, il a sauvé les Fremen, il a tout ça.
Tout va bien se passer maintenant.
Tout va bien se passer. Ah bah non.
Non.
Ah bah non. C'est encore plus foutu puisque c'est, enfin en tout cas dans cette série de bouquins, t'as vraiment cette notion de perte de la culture, d'un patrimoine, etc. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus.
Le jeu est-il un objet culturel?
Tu parlais de Torchlight, un truc qui est vachement intéressant, c'est que Torchlight donc a été fait par des anciens développeurs de Diablo.
Oui, c'est un hack and slash dans un donjon, donc effectivement un Diablo-like. Hein,
voilà, il y avait même un petit peu, je pense qu'il a même été lancé avec un petit ras-le-bol des développeurs de Diablo quand ils ont vu ce que Diablo 3 était en train de devenir.
Ouais, complètement.
Et bah du coup pour la petite anecdote, la fin de Diablo 1 et du coup le début de Diablo 2 précise que c'est aussi un aventurier du Diablo 1, enfin le paladin de Diablo 1 qui s'insère la pierre d'âme dans le crâne dans une façon tout à fait, enfin il se fait une petite lobotomisation en maison et il devient du coup Diablo 1. T'as pas mal de suites comme ça qui te disent bah en fait ce que t'as fait au premier épisode, ça il y a une espèce d'effet domino. Un peu problématique. La série Metroid le fait aussi plus ou moins, puisque, très inspiré d'Alien, il y a ce côté où les humains veulent récupérer les Metroid pour en faire des trucs. Il y a des applications à la fois médicales et un peu militaires qui se font autour. Dans le 1, tu découvres les Metroid. Dans le 2, tu les extermines. Dans le 3, dans Super Metroid, il n'y en a plus qu'un seul. Et c'est parce qu'il n'y en a plus qu'un seul que c'est la merde. Enfin, tout ça. Et puisqu'on parlait des débuts, justement. Un truc que Metroid fait de façon logique mais semi-énervante, c'est qu'à chaque fois que tu démarres un nouveau jeu Metroid, tu joues toujours la même personne. Et il y a une chronologie dans les jeux Metroid.
Ouais.
Tu joues toujours la même personne, il y a une chronologie. Et chaque jeu commence par tu perds tout ton équipement.
Eh oui, toujours.
D'un moyen X ou Y, c'est plus ou moins bien justifié. Par exemple, j'ai découvert récemment, avec 15 ans de retard, Metroid Fusion.
Oui.
Et du coup, dans Metroid Fusion, tu perds ton équipement parce que justement ta combinaison se fait alors pour ceux qui savent pas, dans Metroid en fait c'est tout ton équipement est intégré dans ta combinaison et ce que tu récupères en fait des anciennes technologies d'une race d'oiseaux de l'espace qui t'a donné cette truc quand tu étais enfant, enfin bref on va pas essayer de chercher les justifications scénaristiques mords-moi le chozo. Mais bref, là dans le Metroid Fusion tu perds ton équipement parce que
il y a une espèce de clone maléfique qui...
Oui, non, c'est même pas ça. Les scientifiques font des expériences à partir d'un restant de Metroid.
Ouais.
Ils trouvent un organisme, ils appellent l'organisme X parce que on va s'emmerder à trouver des noms.
C'est vrai qu'il s'appelle l'organisme X.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et il infecte ta combinaison, mais tu es sauvé parce que tu as des gènes de Metroid en toi, puisque dans Super Metroid, le Metroid s'était sacrifié pour te sauver la vie.
Eh oui. Quelle continuité.
Chronologie.
Quelle narration.
Exactement. Et donc, ils sont obligés de reset un petit peu ta combinaison, mais il me semble que dans Super Metroid, la justification, il y en a pas.
Ouais. Non, je sais plus. C'est vrai que
Et dans Mother M, c'est encore pire. puisque tu as tout ton équipement dès le début.
Ouais, non, mais ça, c'est. Ouais. Aux ORM, c'est un vrai problème, par
Voilà.
contre.
Mais tu dois demander la permission à un gentil monsieur pour avoir le droit de l'utiliser. Et ça,
Ouais.
c'est.
Non, ça, c'est très, très, très frustrant pour le
Voilà.
coup. Et il y a ce côté, on en parlait un peu, et je pense que pour le coup, ça va clôturer le podcast. On parlait un petit peu de cette notion de, justement, bah, qui est un peu résumée par Nicolas avec la taverne séisme et de l'idée de, voilà. Le choc de lecture, qui est la notion de climax au début. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais on avait un peu réfléchi, alors, notamment dans des jeux vidéo, mais pas que, parce que c'est vrai que ce que tu disais avec les films Marvel, avec les James Bond, c'est très vrai. Dans certains, je pense que dans le jeu de rôle, ça doit s'appliquer, même si j'ai pas de cas en tête. On a cette notion de, bah, au début, on est très puissant, et en fait, on a un élément qui fait que. Donc, on parlait du jeu vidéo prototype aussi, dans lequel on commence en étant super fort. Darksiders aussi, me semble, fait ça. Et puis, ensuite, on a un rollback. Alors, pour des raisons différentes, Darksiders, c'est expliqué. Et prototype, c'est juste une ellipse temporelle où on commence le jeu à 95% du jeu. Bon. Mais ce côté-là, on y réfléchissait. On n'est pas forcément très au clair sur si c'est bien ou pas. Parce que d'un côté, il y a
Il
ce.
y a des moyens qui sont très mauvais de le faire.
Ouais.
Notamment, tu as le jeu Haze qui fait ça de façon tout pourrie parce qu'en fait, le premier chapitre du jeu. Alors, pour l'histoire, Haze, c'est un FPS qui est sorti sur PS3, je crois. Je crois que c'était l'un des genre porte-étendards de la PS3 au moment où elle est sortie. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Tu commences le jeu en tant qu'un soldat d'une milice, tu prends des drogues de combat pour pas voir le sang, des trucs comme ça, pour te désensibiliser à la violence, parce que du coup on vit dans une méchante dictature, etc. Et on est censé être cette dictature, et du coup cette drogue de combat bah, te rend plus rapide, plus fort, tu peux activer des pouvoirs, des trucs comme ça. Après, tu perds, il y a une raison, je sais pas comment, mais en gros, t'es blessé, t'es séparé du truc, et tu vas en gros faire partie de la résistance, et tu vas du coup ne plus avoir ça, accès à cette drogue de combat, etc. Mais alors, plus du tout. Genre, plus jamais, à aucun moment dans le jeu, tu retrouves ces pouvoirs, cette capacité de combat et de puissance.
D'accord, ok. Donc il y a un côté presque un peu frustrant de te dire j'avais ça d'un point de vue joueur, en tout cas, même
Ouais.
si c'est expliqué d'un point de vue scénario et que
Ouais,
c'est un
ouais, ouais.
intérêt. Alors
Et.
c'est intéressant parce que ce côté justement, jeu de la décroissance. C'est un truc sur lequel on se dit qu'il y a encore un peu de matière à exploiter. Alors on pensait, alors en tout cas en pitch parce qu'on l'a pas encore testé, mais à un jeu, alors petite pub de messieurs Lacariatre et Mathieu Bossu, donc s'appelle Under Pressure en anglais, et qui est justement à ce principe de sous-marin de récolte de ressources, mais où finalement on va avoir un sous-marin qui va être de moins en moins fort au fur et à mesure. Et donc on est sur quelque chose où au lieu d'avoir une gradation de croissance, on a une gradation de décroissance et de
Ouais.
gestion de la perte quelque part.
T'as des quelques jeux comme ça qui, même dans le jeu vidéo, qui ont cette notion de désastre contrôlé. C'est tu sais qu'à un moment ça va merder, mais ton but c'est de gagner avant que ça soit plus possible.
Ouais, d'accord, ok. Donc là, tu fais du damage control au final.
Ouais,
Tu
c'est
fais en
ça,
sorte
complètement.
que, ouais, tu sais que tu vas perdre tel truc, mais tu dois faire en sorte que.
C'est un peu à la fois une course contre la montre et
Ouais.
il y a des moments quand tu joues XCOM, t'as vraiment cette sensation-là. Où les ennemis évoluent plus vite que toi, tu débloques les technologies et tu commences à suer très très fort.
Ouais. Ouais,
Bref.
tu te dis finalement, je fais en sorte que malgré le fait que je sois de plus en plus dépassé, mais quelque part, tu vas quand même utiliser tes compétences cérébrales et cognitives et ta maîtrise du jeu pour venir à bout d'un truc qui
D'une
devient plus
situation,
puissant, une courbe qui s'inverse. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de restreindre vraiment le joueur et de se dire, bah, tu vas aussi devoir faire preuve d'inventivité. Donc finalement, ça se recoupe pas mal, mais parce que tu vas avoir moins de compétences.
C'est ça. C'est quelque part, tu vois, je trouve que c'est un moyen très sain, entre guillemets, de gérer les joueurs. C'est un peu c'est le principe des petits trous à vélo, tu vois. Au final, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on enlevait les petits trous? T'étais bien confortable avec, tu te cassais jamais la gueule. Et puis un jour, tu te retrouves à faire du Vélib bourré et tu te rends compte que c'était de la merde et que t'aurais dû les garder.
Ouais. Bon bah sur ces paroles, sur cette comparaison
Voilà,
effectivement, elle lui
sur
dit.
cette
Sur
métaphore.
cette belle métaphore. Donc, comme on disait, c'était vraiment cette fois notre dernière chronique. Donc, on voulait ouvrir sur la fermeture et fermer sur l'ouverture.
Exactement. On
Et
a commencé par la fin et on termine par le début.
Mouah, vous comprenez plus rien maintenant.
Ce podcast est sponsorisé par Darren Aronofsky.
Oh là là. Et donc, on voulait bah, remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant quand même plusieurs années. Au final, c'est passé vite. Et Et surtout, gros remerciements à toute l'équipe de Proxy Jeux, avec
Ouais.
qui c'était plutôt chouette de travailler.
Merci à tous, merci pour les moyens, pour le soutien,
Voilà.
pour tout.
Un grand merci aussi à Père Castor pour tout ce qui est soutien sur les utilisations du matériel, à David pour les rappels de hey, les chroniques, c'est maintenant. Et puis bah, un gros remerciement aussi à Cyrus qui a dû composer avec un certain nombre de nos retards maladresses et de parfois les billets n'étaient pas complètement parfaits et du coup des coups de fouet, c'était pas terrible. Voilà, en tout cas, c'était très chouette de chroniquer pour Poproxy Jeux. Et puis bah nous on continue de toute façon à évoluer dans le monde du
Voilà.
jeu et à suivre le podcast.
Merci à Guylaine qui était avec nous au début et
Ouais.
qui a volé vers d'autres horizons, qui avait une forte présence au micro et que c'est dommage qu'elle n'ait pas fait tout jusqu'à la fin.
Guylaine que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Radio Rollist. Donc au
Exactement.
moins c'est ça.
Et moi je tiens à dire merci Aurélien, merci. Du coup, il y a 2 ans, je suis venu te voir en te disant, hey mec, viens, on fait un podcast.
Allez.
Et t'as fait ouais, carrément. Et t'as pris en charge beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. T'as pris des trucs, t'as pris en charge des trucs sur lesquels, à un moment, j'avais pas le courage, pas la
Ouais.
force. Et je t'en suis éternellement reconnaissant. Et c'était une aventure. Tout ça, tout ça.
Eh ben écoute, bah merci. Merci à toi de m'avoir proposé et puis d'avoir animé le podcast avec moi, puisque c'est quand même des échanges qui sont intéressants, qui sont riches et ça valait carrément le coup de le faire.
Voilà.
Voilà.
Et donc on vous dit bah
Eh ben, jouez
jouez
bien.
bien.